ou collectivement, on doit faire mieux, être capable de ressortir le ballon quand l'adversaire vient nous presser, être capable de partir de derrière, amener le ballon jusqu'au but adverse pour créer des opportunités. Mais je pense que globalement, techniquement, on doit faire beaucoup mieux et on doit être peut-être plus mobile. Quelle que soit la manière, le plus important, c'est de gagner. On est dans un championnat où, on le sait, c'est une qualification, une Coupe du Monde où la Côte d'Ivoire n'a pas participé depuis 10 ans. Donc, sur 10 matchs, on sait qu'on va pas toujours bien jouer, on sait qu'on va pas toujours avoir la maîtrise. Donc, le plus important, c'est de gagner, quelle que soit la forme du jour et quelle que soit la manière.
Et Merspaé avec Yoann Gourlet, coup d'envoi de Côte d'Ivoire-Gambie au stade de Félix Houphouët-Boigny à 19h, temps universel.
Et au total, il y a 8 matchs aujourd'hui avec l'opération Remontada du Mali qui se poursuit.
Des Aigles relancés par leur succès sur les Comores, jeudi 3-0 après des mauvais débuts d'éliminatoire. Quatrième de leur groupe I à 4 points du leader ghanéen, les Maliens affrontent la Centrafrique à Casablanca. Des fauves du Bazou Bangui abonnés aux défaites ces derniers temps, mais pour autant, pas question de les sous-estimer, prévient le sélectionneur malien Tom Sanfit.
C'est un match important pour nous. Au début de mars, on a dit on va jouer 6 finales pour aller aux Coupes du Monde. On a gagné la première finale, maintenant c'est la deuxième finale qu'on doit jouer. Tout le monde va penser que c'est un match facile parce que Centrafrique a perdu leurs derniers 6 matchs. Mais Mali, l'année passée, a seulement joué un match nul contre Centrafrique et aussi Ghana a seulement gagné 4-3 contre Centrafrique. Donc, on doit être prudent, on doit respecter l'adversaire et on doit faire tout de notre travail pour faire un bon match. On demande une victoire, c'est clair. Mais ça va être très important qu'on n'est pas nonchalant, qu'on n'a pas pense que ça va être facile.
Tom Saint-Fit avec Eric Mamrud. Centrafrique Mali, coup d'envoi 16h TU dans la soirée. Le deuxième de ce groupe I, Madagascar, recevra le premier, le Ghana. Les autres rencontres au programme à 13h, temps universel, la Namibie reçoit la Guinée équatoriale. 16h TU, Guinée-Bissau, Burkina Faso et Liberia-Sao Tomé. Enfin, à 21h, temps universel, l'Éthiopie reçoit Djibouti et la Tunisie accueille le Malawi.
Le programme est complet. Merci Antoine Grenier. C'était le journal des sports.
RFI, toute l'actualité.
Xavier Besson.
Et l'actualité internationale de ce lundi 24 mars, c'est aujourd'hui le début des pourparlers sur un éventuel cessez-le-feu entre l'Ukraine et la Russie. Discussion sous l'égide des États-Unis en Arabie Saoudite. Moscou dit que les discussions n'en sont qu'au début et qu'elles s'annoncent difficiles. Selon le porte-parole de la présidence russe, le sujet principal sera la reprise de l'accord céréalier en mer Noire, accord rompu par la Russie en 2023. Le porte-parole du Kremlin ne fait en revanche pas mention du cessez-le-feu sur les infrastructures énergétiques évoquées par Washington. La Turquie, cinquième soirée de manifestation hier, avec encore une fois des dizaines de milliers de protestataires qui ont envahi la place de la mairie à Istanbul. Hier, celui qu'ils soutiennent, le maire d'Istanbul, a été placé en détention dans une affaire de corruption qu'il conteste. Le ministère turc de l'Intérieur l'a démis de ses fonctions et dans un message transmis par ses avocats, Ekrem İmamoğlu appelle, je cite, la nation à lutter. Dans le même temps, son parti tenait sa primaire pour la présidentielle de 2028. Elle a viré au plébiscite avec 15 millions de votants en sa faveur, dont 13 millions de personnes extérieures au parti. Et on s'intéresse à un paradoxe maintenant à propos de génétique. En fait, le reportage Afrique commence aujourd'hui une série consacrée à la génétique, au patrimoine génétique des Africains, à l'occasion d'un sommet qui s'est tenu à Durban, en Afrique du Sud, il y a une dizaine de jours. Conséquence de l'histoire de l'espèce humaine, c'est sur le continent africain que l'on rencontre la plus grande diversité de variations génétiques. Et le paradoxe, c'est que c'est aussi là qu'il est le moins étudié. La plupart des recherches et des séquençages se concentrent surtout en Europe et aux États-Unis. Claire Bargelès.
Nous tous, humains, formons une seule espèce et partageons à plus de 99,9% le même génome. Mais les quelques variations restantes, qui ont eu lieu au cours des millénaires, peuvent avoir une grande influence sur notre santé. Et comme les indices des découvertes scientifiques indiquent que les premiers hommes sont originaires d'Afrique et que seule une partie d'entre eux a ensuite peuplé le reste du monde, les gènes des différentes populations restées sur le continent renferment encore beaucoup de secrets pour l'ensemble de l'humanité. Selon la pédiatre et présidente de la Human Genome Organization, Ada Amosh, on ignore encore presque tout de leur variété.
La diversité génomique à l'intérieur de l'Afrique n'est pas du même ordre de grandeur que pour le reste du monde. En termes de groupes ethniques, de clans, etc., il y a beaucoup plus de diversité sur ce continent que partout ailleurs. On aurait énormément à apprendre si on séquençait davantage les gènes des populations africaines.
Et pourtant, ces variations ne sont quasiment pas analysées, avec moins de 2% des génomes séquencés mondialement appartenant à des populations africaines. Après des études en Ouganda, Christopher Kintu travaille désormais sur ces questions à l'université Queen Mary de Londres.
Ces études ont été historiquement réalisées sur des populations d'origine européenne et ce n'est pas surprenant car cela demande beaucoup de temps, d'argent et de ressources que l'on n'a pas forcément à disposition en Afrique. Donc cela signifie qu'il faut qu'on en fasse plus en tant que scientifique.
Même sur le continent, les recherches sont inégales avec beaucoup de travaux effectués en Afrique du Sud. Dans des pays comme la RDC, les études sont balbutiante, regrette Aimé Lumaka, professeur de génétique à l'université de Kinshasa.
En RDC, c'est un pays où on a un grand potentiel génétique, mais où on a très peu de main-d'œuvre. Pour le moment, on n'a qu'un seul centre de génétique qui est basé à l'université de Kinshasa. Et le personnel qu'il y a dans le centre de génétique n'est pas encore suffisant pour ne fût-ce que répondre aux besoins dans la ville de Kinshasa, malheureusement.
Les séquençages effectués par exemple aux États-Unis ou au Royaume-Uni contiennent bien des données issues des diasporas africaines, mais elles ne sont pas représentatives de l'ensemble du continent et des effets de l'environnement. Claire Bargelès, de retour de Durban, RFI.
Et demain, à la même heure, on parlera des conséquences pour la recherche, notamment de ce manque de données sur le génome des Africains. Car si aujourd'hui donc moins de 2% du génome humain répertorié provient de personnes africaines, pour la généticienne américaine Ada Amosh, la présidente de l'organisation du génome humain, il y a pourtant un intérêt scientifique général à étudier spécifiquement le génome des Africains et un intérêt aussi pour les Africains eux-mêmes.
Il y a en effet le fardeau du VIH ou encore de la tuberculose résistante. Ce sont d'énormes problèmes qui touchent de larges portions de la population. Tout le monde reconnaît que ce sont de gros défis. Mais il y a aussi les maladies chroniques. Si les gens vivent assez longtemps, ils vont développer des maladies cardiaques ou du diabète. Elles ont des causes environnementales. Le fait de manger certains types de nourriture, de ne pas faire d'exercice, de rester sur une chaise toute la journée, ce n'est bon pour personne. Cependant, elles ont aussi des causes génétiques. Et par exemple, les maladies rénales sont beaucoup plus communes au sein de certaines sections de la population africaine. Nous commençons à comprendre pourquoi, et l'étape suivante, c'est de trouver comment traiter et prévenir cette maladie. Mais si on ne séquence pas, on ne peut pas en déduire les raisons. De plus, ce qui est sûr pour l'Afrique et qui a été mis en place dans certains pays, c'est qu'avoir des capacités de séquençage dans différentes régions permet aussi de réaliser du séquençage rapide d'agents pathogènes. Si une nouvelle maladie se développe, cela permet de comprendre de quoi il s'agit ou quel est le virus en cause. C'est essentiel et on a pu le voir pendant la période du Covid.
La généticienne Ada Amosh, interrogée par Claire Bargelès. Comment fonctionne le Trans-Gabonais, ce train qui relie Owendo, à côté de la capitale Libreville, à Franceville, dans l'est du pays? Au début de l'année, un nouvel accord de financement a été signé avec l'Union européenne et l'Agence française de développement. L'heure est donc désormais aux travaux et à la modernisation de cette ligne essentielle pour le transport des passagers, mais aussi pour le fret, en particulier du bois et des minerais. Et l'un des axes d'amélioration aujourd'hui, c'est la formation et la digitalisation du suivi du trafic. Pour Afrique Économie, François Mazé a suivi une manœuvre au centre de gestion de la circulation à Owendo.
Mouvement numéro 1 engagé à 10h18, c'est ça ?
Oui, 10h18.
Devant leurs ordinateurs, les régulateurs suivent en temps réel les mouvements des trains sur les tronçons du Trans-Gabonais. Patrick Biogo est en contact avec des conducteurs, des aiguilleurs et des chefs de gare.
J'ai pris les coordonnées des travaux. Il y a des mouvements de travaux qui se sont engagés et qui ont dégagé dans sa gare. Donc là, il me donnait les heures d'engagement et de dégagement des différents mouvements. Je le mets sur le fichier.
Le centre de gestion de la circulation fonctionne en continu. 6 écrans géants permettent de visualiser l'ensemble des 648 km de la ligne. Chef de division, Darrel Herviti, supervise le trafic.
Représenté, vous avez les 24 gares, le train jaune là. Symboliquement, ça va représenter que le train, en fait, est supervisé. Contrôler la vitesse du train dans le canton. Parce que chaque canton, il y a une vitesse bien définie de parcours et également la communication entre le régulateur et le conducteur, donc en temps réel. Donc à chaque moment, quand le train évolue, le régulateur a la possibilité, dans cet aspect-là, de communiquer avec le conducteur, de prendre également la main sur le train. Ça veut dire que s'il estime qu'il y a une violation d'une règle définie, il peut arrêter le train à tout moment.
La gestion de la circulation est un axe de modernisation pour la CETRAG, alors que la compagnie doit batailler contre de multiples retards liés au déraillement récurrent des trains de manganèse, trop lourds pour certains tronçons vieillissants. Abdoulaye Ba est le directeur des investissements de l'entreprise.
On se retrouve avec des traverses qui pourrissent, compte tenu de l'effet climatique aussi et de l'environnement un peu agressif du Gabon. Et donc ce pourrissement des traverses accumulé avec le vieillissement du rail, avec le tonnage qui est plutôt entre 27 et 28 tonnes à l'essieu au lieu des 25 dimensionnantes, tous ces facteurs-là cumulés occasionnent justement ces effets d'incidentologie constatés depuis 2019.
Les fonds du nouveau programme doivent notamment servir à remplacer 270 km de rails et de traverses. L'État gabonais espère ainsi transporter dans 5 ans 21 millions de tonnes de fret contre environ 11 millions actuellement. François Mazet de retour de Libreville, RFI.
À Libreville, il est 5h52. 4h52 à Dakar, on parle du Sénégal tout de suite avec notre invité. Il y a un an, jour pour jour, le candidat, alors dans l'opposition, Bassirou Diomaye Faye, remportait l'élection présidentielle dès le premier tour, du jamais vu dans le pays. Un an plus tard, où en est-on de la rupture promise par le parti PASTEF? Quels sont les principaux changements revendiqués par le président et son premier ministre Ousmane Sonko? On en parle avec Ayib Dafé, le secrétaire général du PASTEF, qui est aussi le chef du groupe parlementaire du parti. Il répond ce matin aux questions de Christophe Boisbouvier.
Les premiers changements tangibles sont d'abord dans la gouvernance. Conformément à son engagement, le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a inscrit la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption comme une priorité de sa politique, en transmettant une lettre aux fonctionnaires du pays pour les exhorter à la ponctualité, au respect du bien public, à l'efficacité et au respect de la hiérarchie. Donc, sur ce plan-là également, il a eu à organiser des assises de la justice sur la modernisation et la réforme de la justice au Sénégal. Et par ailleurs, il a eu aussi à publier tous les rapports des corps de contrôle qui étaient transmis à son prédécesseur depuis près d'une dizaine d'années et qui n'étaient pas publiés, contrairement aux textes qui les encadrent. Il a eu également à faire un audit sur la gestion des finances publiques de son prédécesseur, notamment la période entre 2019 et 2024. Et c'est cet audit qui a permis de révéler une situation très peu reluisante de nos comptes publics avec un déficit à 12% du PIB, alors que les chiffres qui étaient présentés parlaient de déficit à 5%. Donc, une véritable catastrophe budgétaire, si on peut parler ainsi. Et ça a permis d'avoir une situation réaliste. Donc, en très peu de temps, il a eu à concrétiser sa vision et à développer la stratégie de développement.
Ayib Dafé, le secrétaire général du parti au pouvoir au Sénégal, le PASTEF, entretien complet dans trois quarts d'heure et sur RFI.fr. Et tout de suite, c'est l'heure de retrouver Maman, la chronique du Gondwana. Vous nous dites ce matin, Maman, qu'au Gondwana, la candidature de l'opposant historique n'est pas facile à l'élection présidentielle.
Oui, comme l'a dit et répété notre leader bien-aimé, son Excellence Président Fondateur, à tous ceux qui ont des oreilles et savent écouter et entendre, oui, n'est pas candidat qui veut, mais qui peut. En effet, dans ce pays, les gens pensent à tort que l'élection présidentielle est comme la Coupe du Monde de football, c'est-à-dire qu'il suffit de jouer les matchs qualificatifs, finir premier ou deuxième de sa poule de qualification, et hop, on participe au tournoi final. Ces gens-là, surtout les doux rêveurs de l'opposition, ben ils doivent justement arrêter de prendre leur case en paillote pour des châteaux en Espagne. En très très démocratique république, l'élection présidentielle est une chose trop sérieuse pour la laisser entre les mains de n'importe qui peut se lever et prétendre être candidat à la fonction suprême sans l'accord du président fondateur. Eh oui, c'est comme ça. Au Gondwana, c'est le tenant du titre. Oui, j'ai bien dit tenant du titre et pas président sortant comme on l'entend par-ci par-là. C'est le tenant du titre, c'est-à-dire le président restant, le président résident, le président non bougeant. C'est lui et lui seul qui a un mot à dire sur ses prétendants. Et c'est logique parce que lui seul connaît la difficulté de ce poste. Lui seul peut, du premier coup d'œil, savoir si tel ou tel candidat a l'étoffe et les épaules assez larges et solides pour s'asseoir dans ce beau fauteuil niché dans le bureau présidentiel dans les hauteurs de Gondwana City, notre belle capitale. Ainsi donc, ne deviens pas candidat à l'élection présidentielle qui veut, mais qui peut. Ce n'est pas parce que tu t'appelles opposant historique que ça te donne le droit de pouvoir défier notre leader bien-aimé. Ce n'est pas aussi facile, mon ami. Le Gondwana est un pays ordonné, organisé. Il y a des lois, des règles, un conseil constitutionnel et tout un tas d'institutions qui ont pour mission de s'assurer que tout candidat à la magistrature suprême respecte des conditions bien précises pour se présenter. Par exemple, l'une des premières règles indispensables pour que ta candidature soit validée par président fondateur, validée par le conseil constitutionnel, est que toi-même, ton père, ta mère, tes enfants, tes frères et sœurs et tous les membres de ta famille aient résidé au Gondwana depuis 30 ans continuellement sans même une petite interruption de 15 minutes. Eh oui, mon ami, tu ne peux pas prétendre gouverner aux destinées de ce pays si tu lui as fait des infidélités. Peu importe si t'es parti brièvement à l'étranger pour raisons professionnelles, de santé ou bien pour tes vacances. Mon ami, tu pouvais pas faire tout ça au pays? Attends, avant de devenir président fondateur, notre leader bien-aimé lui-même, il n'avait jamais déserté le territoire national qu'il chérit tant. Tu ne peux pas t'en souvenir parce que t'es trop jeune, t'étais pas né à l'époque. D'ailleurs, personne n'était né à l'époque. Et celui qui le niche n'est qu'un complotiste et on viendra le chercher chez lui, lui et son candidat à la présidentielle. À demain.
À demain. Merci Maman. Merci aussi à Thierry Le Saint et à Vincent Dublanche qui étaient respectivement à la réalisation et à la rédaction en chef de cette édition d'Afrique Matin. Restez avec nous dans quelques instants, le journal. Et tout de suite, c'est le moment où l'on dit bonjour à Marion Cazeneuve pour le début d'RFI Matin. Bonjour Marion.
Bonjour Xavier, bonjour à tous. Ce matin, on revient sur la mobilisation en Turquie qui prend de l'ampleur après l'incarcération du maire d'Istanbul, figure de l'opposition accusée de corruption. Des dizaines de milliers de personnes ont manifesté hier soir pour réclamer sa libération. On dressera aussi un premier bilan du mandat de Bassirou Diomaye Faye, le président sénégalais élu il y a tout juste un an. Le grand invité Afrique de RFI ce matin est le secrétaire général du PASTEF, Aïb Dafé. A tout de suite sur RFI.
Appelez-nous, exprimez-vous. Juan Gomez.
Tous les jours à 8h10 TU, la rédaction de RFI répond à vos questions. Vous souhaitez un complément d'information pour mieux comprendre et décrypter l'actualité? Rejoignez-nous dès maintenant sur notre page Facebook RFI Appel sur l'actualité et sur WhatsApp 33 6 89 28 53 64.
Retrouvez Appel sur l'actualité tout à l'heure avec Banque Atlantique à partir de 8h10 TU.
RFI.
8 milliards de voisins.
Emmanuel Bastide attend vos témoignages sur les thèmes de cette semaine. Aujourd'hui,
au Brésil, reportage sur la situation des travailleuses domestiques, un métier de servitude ancré dans la société.
Demain,
à qui appartient le wax, ce tissu coloré éternellement réinventé?
Contactez-nous sur notre numéro WhatsApp 337 64 45 51 41.
8 milliards de voisins.
Du lundi au vendredi à 10h10 TU sur RFI.